Le journal Olivier Zano.
Bonjour, Tram la Bulle s'est achevé ce week-end et le festival perd son président. Cédric Humer quitte le comité pour rejoindre l'équipe de Delémont BD. Il nous explique pourquoi, c'est l'ouverture de cette édition. RJB a lancé ce matin ses deux semaines spéciales élections fédérales. Manfred Buller était avec nous pour évoquer son bilan et ses perspectives en tant qu'actuel seul représentant de la région sous la coupole. Le temps file, c'est un constat, mais c'est aussi une source d'inspiration. Le Kunsthaus de Zurich propose une exposition intitulée Zeit, temps. On y parle bien sûr d'horlogerie, vous l'entendrez. Journée d'automne radieuse pour un début de semaine des plus agréables. Pas l'ombre d'un nuage à l'horizon et des températures douces, 22 à 23 degrés sur toute la région. À peine terminée son édition 2023, Tram la Bulle se retrouve orpheline de son président. Il aura dirigé le comité pendant 10 ans. Cédric Humer a annoncé aujourd'hui sa démission. Il restera dans l'organisation de manifestations dédiées à la bande dessinée, mais sous d'autres latitudes, dans le Jura plus précisément. Sa nomination à la tête de Delémont BD a en effet été officialisée ce jour. Pour Cédric Humer, c'est une belle page qui se tourne, aussi l'opportunité de travailler pour un événement de manière professionnel, Cédric Humer.
Tram la Bulle reste un festival organisé par des amateurs sur une base 100% bénévole. Il y avait aussi pour moi une envie de changer, de passer la main à Tram la Bulle. C'était déjà quelque chose qui était en cours de discussion. Et puis, c'était l'occasion de reprendre Delémont BD. Et puis, pour moi, ça me permet de rester dans le mode organisationnel de manifestations liées avec la bande dessinée.
Comment ça se passe maintenant au niveau du comité de Tram la Bulle? Comment vous avez amené ça?
Pour l'instant, tout est en cours de discussion puisque ça vient de se faire dans cette nouvelle nomination en plein rush d'organisation de Tram la Bulle. Pour l'instant, il n'y a pas encore de nouveau président ou de nouvelle présidente pour Tram la Bulle, mais bien évidemment, des discussions sont en cours. Il y a des intérêts pour reprendre Tram la Bulle. L'ensemble du comité actuel de Tram la Bulle a décidé de repartir pour organiser la 24e édition. Des contacts sont déjà pris aussi avec des personnes pour reprendre ma place, mais aussi pour compléter le comité. Donc j'ai bon espoir et puis je souhaite vraiment que Tram la Bulle puisse continuer sur les mêmes bases qu'actuellement.
Cédric Humer prendra rapidement ses fonctions à Delémont BD. Il entend tout de même accompagner sa ou son futur successeur à Tram la Bulle pour une transition en douceur. Dans la région, toujours cette nouvelle attaque du loup. Un troupeau de chèvres a été pris pour cible au bois des Râpes sur la commune d'Orvin, selon une information de l'Association des paysans bernois diffusée sur la plateforme ajour.ch. Cette attaque doit encore être confirmée par les analyses ADN. Elle survient après celle commise à Courtelary, Corgémont et Roche. Une page se tourne sur les hauteurs de Renan. La buvette du Bec à l'Oiseau, sur territoire neuchâtelois, ferme définitivement ses portes. L'établissement a accueilli fondeurs et habitués pendant 26 ans, mais le moment est venu de rendre leur tablier pour Jeanne et Gérald Vinclair en raison de soucis de santé. Une décision qui n'a pas été facile à prendre, comme l'explique Gérald Vinclair.
Nous avons créé cette buvette il y a 26 ans à cause des pistes de ski de fond. Les skieurs qui venaient par ici, les pistes sont tracées depuis la vue des Alpes jusqu'au Bugnonnet. Et ils sont toujours les bienvenus ici à la buvette pour se réchauffer, pour manger une petite chose, manger une fondue aussi, on en a beaucoup fait. Et de fil en aiguille, on a eu beaucoup de clientèle. On a eu énormément d'amis qui sont venus ici depuis les 26 ans. Et c'est clair que maintenant, c'est une page qui se tourne. On a beaucoup de peine à arrêter, mais la santé prime avant tout et malheureusement, on doit arrêter.
Aucun repreneur n'est prévu à la buvette du Bec à l'Oiseau. La maison tout entière appartient aux Vinclair qui habitent dedans. Ils ne veulent pas déménager et comme il n'y a qu'un appartement, ils ne peuvent pas accueillir quelqu'un d'autre pour reprendre la buvette. On ouvre un volet politique. Il est actuellement le seul représentant de la Berne francophone sous la coupole. Manfred Buller tentera de conserver son siège au Conseil national lors des élections fédérales du 22 octobre. Le président de l'UDC bernoise joue gros. Il n'avait pas été réélu en 2019, mais avait récupéré son siège cette année au bénéfice de l'élection d'Albert Rösti au Conseil fédéral. Manfred Buller, défenseur des idées de son parti, l'UDC, mais aussi défenseur de la région, nous lui avons demandé ce qui prime pour lui, Manfred Buller.
Si on se place dans une perspective purement nationale, c'est évidemment les valeurs prônées par le parti qui sont pour moi les plus importantes. On parle de responsabilité individuelle, on parle d'avoir une économie forte, d'avoir un maximum de liberté pour la population, les entreprises, les familles. Après, il y a des dossiers très spécifiques qui concernent uniquement le Jura bernois. Et là, on va évidemment chercher des alliances aussi suprarégionales avec les cantons voisins, que sais-je, pour défendre des intérêts qui seront plus locaux, plus particuliers. On peut penser ici au dossier de transport, par exemple, ferroviaire ou routier. Alors, on voit parfois que la gauche, quand il s'agit de route, est de toute façon contre, quel que soit l'intérêt régional. Mais heureusement, on a des élus aussi dans la région qui savent faire la part des choses.
C'est donc une nouvelle campagne qui bat son plein pour Manfred Buller. Travail intense dont les fruits dépendent en grande partie de l'implication des citoyens.
Une campagne, c'est toujours un grand travail, c'est beaucoup de présence sur le terrain. J'essaye vraiment de montrer aussi que l'UDC est le parti qui a actuellement le vent en poupe, si on en croit les sondages. Mais le seul sondage qui compte, c'est l'élection du 22 octobre. Donc il faut vraiment se mobiliser. J'espère aussi, et j'appelle vraiment la population du Jura bernois à se déplacer aux urnes pour qu'on dépasse nettement ce taux de participation de 37% qu'il y avait eu en 2019, qui était très décevant par rapport à la moyenne cantonale, qui est de presque 50%. Donc là, il faut vraiment que la région se bouge, quelles que soient les couleurs politiques, que les gens aillent voter et soutiennent les candidates et les candidats de la région.
Manfred Buller qui répondait à Diana Dacosta, c'était aujourd'hui dans la matinale RJB. Vous pouvez retrouver de plus larges extraits de cette interview en vidéo sur notre site internet. Et toujours à propos de ces élections fédérales du 22 octobre, plusieurs records ont été battus. Jamais le nombre de candidats et le nombre de listes n'ont été aussi élevés. Plus de 5900 personnes se lancent dans la course au Conseil national sur 618 listes. L'Office fédéral de la statistique a révélé ce matin les particularités de ces milliers de candidats. Les précisions de notre correspondante parlementaire Marie Vuhemier.
Tous ces prétendants au Conseil national sont en majorité des hommes issus de partis du centre. Ils ont en moyenne 43 ans. L'âge des candidats est remonté depuis les dernières élections où il était de 41 ans. La moyenne d'âge est la plus basse chez les Verts et les Socialistes, la plus haute au Parti suisse du travail et au Parti évangélique. La part de femmes est de 40,8%, légèrement plus élevée qu'il y a 4 ans. Là aussi, les listes les plus féminines sont du côté du Parti socialiste et des Verts. L'Union démocratique du centre ne présente que 22% de femmes. Les champions du nombre de listes déposées sont le centre et les Verts libéraux. À eux seuls, ils cumulent un tiers des candidats au Conseil national. Les partis sont nombreux à présenter des listes avec des candidats jeunes ou seniors. Plus de la moitié des listes partielles représentent une certaine tranche d'âge.
Et on le rappelle, les élections fédérales ont lieu le 22 octobre. Les citoyens de tous les cantons sont appelés à désigner leurs représentants au Conseil national et au Conseil des États. Les personnes souffrant de diabète sont en manque de médicaments. De manière générale, une pénurie de plusieurs dosages est constatée en Suisse et dans le monde depuis le début de l'année. Elle touche également un certain dosage de médicaments anti-diabète appelés les analogues GLP-1. Cette pénurie est due à une explosion de la demande. Le médicament a été popularisé car il entraîne également une perte de poids sans effort. Certains se l'arrachent alors que les diabétiques en ont besoin afin de pouvoir réguler leur métabolisme du sucre qui donne de l'énergie à l'ensemble de notre corps. Le président de l'Ordre neuchâtelois des pharmaciens, Christian Borel-Jacquet, rappelle à quel point le médicament est donc nécessaire pour les personnes souffrant de diabète.
Le diabète est une maladie qui comporte beaucoup d'effets secondaires, que ce soit au niveau cardiovasculaire, au niveau de la microcirculation, etc. Et donc les gens qui n'ont pas d'insuline, soit de manière innée, c'est le diabète de type 1, soit par un diabète acquis, qui est le diabète de type 2, sont capables de développer beaucoup de pathologies. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de pouvoir réguler cette distribution du sucre dans l'organisme. C'est ce que font les médicaments antidiabétiques. On a plusieurs classes, à peu près 6 classes de produits, dont ces nouveaux produits qui sont ces analogues du GLP-1.
Christian Borel-Jacquet espère que l'offre et la demande pourront se stabiliser, mais il explique également que cela peut prendre du temps puisque fabriquer des doses injectables est plus compliqué que des comprimés. Quand les montres dialoguent avec les œuvres d'art, le Kunsthaus de Zurich propose une exposition intitulée Zeit, temps, consacrée à l'évolution de la relation que la société humaine a avec la notion du temps qui passe. Exposition déclinée en 6 chapitres à caractère scientifique, sociologique, économique, à laquelle l'histoire de notre région est inévitablement liée. Dans la phase de construction, la commissaire Catherine Hoog s'est vite rendue compte que la montre et son histoire étaient indispensables.
En réfléchissant sur le temps, on réfléchit aussi à l'horlogerie, forcément, à un moment donné. Et je suis devenue très curieuse à l'histoire, d'aller au Musée international d'horlogerie, qui est d'ailleurs notre partenaire principal dans l'exposition. Et à travers tous ces 6 chapitres, les commissaires de la Chaux-de-Fonds et moi, on était en fort dialogue à un moment donné, après une année de préparation de cette exposition, à trouver une manière de mettre les horloges et les montres, c'est surtout des montres portables, des dernières 400 années, dans toute l'exposition. Donc il y a toujours des relations entre l'art et l'horlogerie.
Catherine Hoog, commissaire de l'exposition, tend à voir jusqu'au 14 janvier au Kunsthaus de Zurich. Environ 70 collaborateurs de Tamedia ont protesté ce matin à Lausanne contre la restructuration des rédactions du groupe en Suisse romande. La manifestation marquait le début des négociations avec l'éditeur. Sont concernés des collaborateurs de 24 heures de la Tribune de Genève, de la rédaction T et de différents services éditoriaux. Pas d'infos sans journalistes. Tamedia tue toujours vos médias. Saignez l'info, voilà l'intox. C'est ce qu'on a pu lire sur les pancartes des manifestants. Ce drame sur les hauteurs de la Chaux-de-Fonds, un agriculteur est décédé après avoir été chargé par un taureau. Les faits se sont produits samedi vers 18h30 au Val-en-Vron. L'homme s'occupait de la bête dans une étable. Il a rapidement été secouru par un proche, puis par des soignants et des ambulanciers. Il a finalement succombé à ses blessures. Dans l'actualité internationale, le moral des entrepreneurs en Allemagne a poursuivi sa traversée du tunnel en septembre. La première économie européenne devrait afficher un trimestre d'été en contraction, selon le baromètre IFO publié ce matin. Le secteur de la construction, miné par l'envolée des taux d'intérêt et l'explosion du prix des matériaux, est tombé à son plus bas niveau depuis janvier 2009.
RJB 12h27, Olivier Zano, il est temps d'attraper nos raquettes.
Sport. Et oui, avec quelques mots de tennis, la biennoise Jill Teichmann n'a pas pu enchaîner un troisième succès dans le WTA 250 de Ningbo. Issue des qualifications en Chine, la gauchère célandaise s'est inclinée 7-6, 6-4 devant l'italienne Lucia Bronzetti au premier tour du tableau principal. Les deux meetings suisses estampillés Ligue de Diamants se dérouleront après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Athlétissima aura lieu le jeudi 22 août à Lausanne, alors que la Weltklasse de Zurich est prévue le jeudi 5 septembre. La Ligue de Diamants, dont le calendrier a été officialisé aujourd'hui, comprendra 15 étapes l'année prochaine. Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente journée.